Philippines, douce amère. Un voyage signé Alex Descotes.
J'avais prévu de rester à Bontoc jusqu'à dimanche et peut-être même jusqu'à ce matin. Je voulais retourner au musée patiemment mis sur pied par Sir Basile et contenant 1000 richesses, 1000 secrets des coupeurs de tête. Mais la saison des pluies, jusque-là comme absente, est venue se rappeler à mon bon souvenir sous forme d'un orage interminable, sous le flot duquel la terre des collines s'est mise à dévaler jusque dans les rues de Bontoc. Cristino Sabado, le chauffeur que j'ai engagé voilà une dizaine de jours à Baguio et qui attendait patiemment mon bon vouloir pour ramener en pleine voiture, clients et soucis quotidiens, est venu me prévenir. Il faut partir vite, aujourd'hui encore si possible. Sinon, nous risquons de rester bloqués pour 2 ou 3 jours ou même, qui sait, 1 ou 2 semaines. J'ai bouclé en hâte mes bagages, Cristino s'en est chargé, mais avant de partir, j'ai gravi à nouveau à pied le chemin qui mène jusqu'à Sœur Basile. Je voulais parler une dernière fois avec elle et lui dire adieu. Alors, à ce voyageur étranger qui honorait son musée et ses souvenirs, elle a voulu offrir quelques secrets qu'elle ne doit pas confier souvent. Écoutez.
Je n'étais pas née pour me marier. Et alors, j'ai toujours aimé les pauvres. Et quand on m'a demandé où est-ce que vous voulez aller, je disais, chez les plus pauvres, dans les plus pauvres de notre congrégation, utile et sécure.
Quel âge avez-vous maintenant, si je peux vous demander?
79.
Et vous allez rester ici, vous allez mourir ici peut-être?
Ah oui, il y avait un très vieux père, il est mort il y a 10 ans. Ils avaient peur qu'il ne serait pas enterré ici. Quand il est mort, ils sont allés chercher. Ils ont fait une espèce de pension. Alors, ils pensaient, peut-être avec les vieilles sœurs, ils ne les seront pas ici. Et notre cimetière était ça. Ils ont fait aussi quelque chose en ciment pour nous enterrer là-dedans.
Tout est prêt.
Tout est prêt.
Vous avez l'impression que la population vous aime?
Ah oui, très fort, très fort. Oh, pendant la guerre, nous étions ici pendant la guerre. Et les Belges ont déclaré la guerre au Japon. Et toutes les sœurs ailleurs ont été en concentration camp. Et nous avions aussi peur que notre jour viendrait aussi. Un certain jour, un japonais, un catholique priest, un prêtre catholique, venait ici, c'est les pères. Et il restait, je ne sais plus combien de temps, plusieurs semaines, et nous pensions peut-être que celui-là vient espionner. Pensait après beaucoup, longtemps, peut-être un mois ou plus que moi, il disait, je m'en vais. Impossible. C'est impossible de vous mettre en concentration camp. Les ziggurats se révoltaient.
Il était venu pour savoir si on pouvait vous mettre en camp de concentration. Comment cela s'est-il passé à la fin de la guerre, lorsque ça a été la débandade pour les Japonais? On dit que certains Japonais ont essayé de se cacher dans les montagnes pendant quelque temps, non?
Les aigrettes ont tué beaucoup de... Japonais. Japonais. Oh, oh. J'ai là des têtes japonaises de l'autre côté.
Vous avez des têtes japonaises ici?
Oui. Vous voulez les voir?
Ah, je veux bien, oui.
Ce bruit que vous entendez, ce sont trois têtes, quatre têtes qui roulent jusqu'à mes pieds.
Et ce sont des japonaises. Et qui vous les a apportées?
Les cigarettes. Mais ici. Ici, ils avaient écrit. Ils avaient écrit tous les noms de ceux qui les avaient tués. Alors j'ai lavé ça.
Et ça, c'était en quoi? 45 alors?
Oui, 45.
Bontoc, les montagnes des coupeurs de tête, c'est déjà loin. Sœur Basile a dû refermer derrière moi la porte de son musée jusqu'au passage du prochain Européen, dans un mois, dans un an. Assis à côté de Cristino, j'ai entrevu le paysage, déjà découvert à l'allée, qui mène à Baguio. Entrevu. Car Cristino se donnait à peine le temps de ralentir dans les virages de Caillasse ou tressauter la vieille américaine. Entrevu parce que les rafales de pluie disputaient aux vagues de brouillard la joie de nous boucher tout l'horizon. Sur le bord de la route, il y avait des monceaux de beaux choux, vert pâle, en attente du camion de ramassage, choux fraîchement cueillis et abandonnés là par les indigènes Benguet, pourtant habitués à la pluie, mais courus se réfugier sous un abri de fortune. De ça de là, la terre battue commençait à se raviner sous l'effet de l'eau, venue des collines. Fleuve de boue traversant le chemin en emportant goulûment pierres, terre, fétus. Le lendemain matin, seuls sans doute les véhicules tout-terrain passeraient encore par ici. Vers 9h du soir, nous étions à Baguio. Cristino m'a amené à un hôtel tenu par un de ses amis. Je lui ai payé ses 10 jours de peine et de voyage et je lui ai demandé de passer me chercher le lendemain matin pour m'emmener à l'aéroport où j'espérais bien trouver une place dans le premier avion pour Manille. Baguio, ville touristique et résidentielle, ne m'attire guère, et je ne tiens pas à y moisir. Valise à peine déposée, je ressors de l'hôtel et j'entre dans le premier petit restaurant, unique lumière au milieu d'un parc. Repasse en goût ni grâce, vite englouti. Mais c'est là que débute une aventure assez étonnante. Sur le point de payer, dans ce restaurant quasi désert, j'accroche le regard, hâtif, d'une fille tout de noir vêtu, fichu en tête, tentant de téléphoner au coin du bar. Rien de plus qu'un regard. Et je m'en vais à pied sur le pavé encore humide, remontant les jardins jusqu'à la lisière des maisons près du parc à pagode, vantant l'amitié sino-philippine. Un psst derrière moi, dans l'obscurité. Regard en arrière, rien. Psst. C'est la jeune fille de tout à l'heure. Tremblante, hésitante. S'il vous plaît. Pouvez-vous m'héberger, m'emmener? Je reste interloqué. C'est d'autant que je ne suis pas à la recherche d'une aventure pour soldats embordés. Vite, dit-elle, appelez un taxi, je vous expliquerai. Nous voilà dans la petite Toyota lugubre. Elle me dit qu'elle a peur, elle tremble, elle m'expliquera, plus tard, vite, à l'hôtel. Ok. Dans quelle galère me suis-je fourré? La gosse doit avoir 19 ans, c'est en tout cas ce qu'elle dit, et je soupçonne le regard réprobateur des hôteliers. Vite, dans la chambre. Et là, sauvage, elle égrène à petite dose, comme arrachée, les éclats de son secret. Elle est Kalinga, fille d'un paysan d'une tribu de coupeurs de tête, là-haut, là où j'ai eu si peur en traversant moi-même les tribus rebelles. Kalinga, coupeuse de tête. Elle est bien frêle pourtant. Étrange retour des choses. Et la peur? Au moindre bruit dans la rue, au moindre aboiement, elle se fige, se ferme. Longue approche pour la remettre sur les rails. Elle se met à parler. Depuis 6 mois, descendue à Baguio. Là-haut, sa vraie mère est morte, voilà 4 ans, en couche. On l'a enterrée avec le bébé vivant auprès d'elle. Une autre femme est venue dans la maisonnette faite de troncs et de chaumes, et pas toujours de quoi manger. Les frères missionnaires lui ont payé l'école secondaire. Et maintenant, depuis 6 mois donc, Baguio, 180 kilomètres de ces montagnes. Baguio, 30 pesos par jour, 10 francs suisses à tout casser. Un jeune homme d'une autre tribu, jaloux peut-être, l'a menacé de mort. Elle est allée se réfugier au poste de police. Elle me montre le double de sa déposition, y compris la partie en igorote, langage de la montagne, qui retrace la précision des menaces. Une page d'interview, contresignée par l'officier de police, qui n'a rien pu faire de plus d'ailleurs. La jeune femme, Julie, n'ose plus rentrer chez elle. Au café, elle essayait d'appeler une amie, en vain. Alors, elle m'a rattrapé dans la rue. Et maintenant on verra demain. Sauvage, elle s'endort dans le lit voisin, grelotte de froid, de peur, de faim, je ne sais trop, puis vient dans le mien, chandail et culotte de grosse toile de campagne. Sauvage, elle s'endort, rassurée, réchauffée.
Une petite fille en pleurs dans une ville en pluie, et moi qui cours après, et moi qui cours après au milieu de la nuit, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Une petite idiote qui me joue la grande scène de la femme délaissée, et qui veut me faire croire qu'elle va se noyer. C'est quel côté la scène? Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce qu'elle me reproche? Qu'est-ce qui lui a pris? Lorsque je l'ai trompée, elle l'a jamais appris. C'est pas elle qui s'approche. Tu m'aimes vraiment, dis-moi, tu m'aimes, c'est tout ce qu'elle sait dire. En pouvant me rasant, quand je voudrais dormir, faut lui dire que je l'aime. Une petite fille en pleurs dans une ville en pluie, où est-elle, nom de Dieu? Elle a dû remonter par la rue de Rivoli. C'est de la flotte plein les yeux. Parce qu'elle avait rêvé, je ne sais quel amour absolu éternel. Il faudrait ne penser, n'exister que pour elle, chaque nuit, chaque jour. Voilà ce qu'elle voudrait, seulement il y a la vie, seulement il y a le temps. Et le moment fatal, le vilain mari tue le prince charmant. L'amour, son bel amour, il ne vaut pas bien cher contre un calendrier. Le battement de son cœur, la douceur de sa chair. Je les ai oubliés. Où donc est-elle partie? Voilà qu'il pleut des cordes, mon Dieu, regardez-moi. Me voilà comme un con, place de la Concorde. Ça y est, je la vois. Attends-moi! Attends-moi! Je t'aime! Je t'aime! Je t'aime!
Vous imaginez la tête de Cristino lorsqu'à 7 heures, il vient me chercher pour m'emmener à l'aéroport et me découvre face au café du matin en compagnie de la sauvageonne. Julie, elle, a repris du poil de la bête, mais je crois qu'elle a toujours aussi peur. Alors je décide de l'emmener avec moi à Manille. Je lui ai donné quelques sous, très peu pour mon portefeuille d'occidental, beaucoup pour ses maigres revenus philippins. Et je suis reparti dès samedi après-midi pour le sud. Cebu d'abord, et ce matin, Samboanga. Cebu, une des innombrables îles des Philippines, une île assez grande tout de même, 8e ou 9e dans le rang des dimensions. À Cebu, on atterrit en fait sur la petite île qui fait face à la ville, l'île de Mactan, reliée à sa grande sœur par un pont à péage, cadeau des Japonais. Cebu, ce n'était pour moi qu'un jour d'escale en attendant l'avion pour Samboanga dans l'île de Mindanao. Mais j'ai pourtant couru, virevolté, pour ne rien perdre de mon bref passage. Le climat est plus chaud et bien plus sec qu'à Manille. Le soir, dans les rues à peine éclairées, la poussière et le crachat des voitures mal réglées vous collent à la peau, la sueur perle au premier effort, à la première marche. Dîner dans un petit café japonais, il y en a beaucoup ici, des cafés et des japonais. Crevettes et légumes en beignet. Hier après-midi, retour sur l'île de Mactan. On la dirait volcanique, à voir ses affleurements de roches spongieuses, noires et compactes. Mais ce sont en fait des coraux, usées par le temps, noircies par le soleil, sur lesquelles quelques chèvres grimpent sans mal, en quête de quelques fleurs. Mactan, c'est aussi le lieu où mourut Magellan. Il était arrivé là en 1521, histoire d'ajouter une terre vierge de plus à son palmarès. Il avait installé une étrange statue polychrome du Santo Niño, statue conservée jusqu'à ce jour, et protégée par d'épaisses vitres devant lesquelles, comme les dizaines de fidèles qui attendent leur tour, une bougie à la main, j'ai lentement défilé. Magellan était donc en terre conquise, ou du moins le croyait-il. 7 jours après son arrivée, dans cette extrémité sauvage de Mactan, il se trouvait face à quelques indigènes, moins commodes que les autres, et pensait bien, avec ses marins, n'en faire qu'une bouchée. Le chef des Cepuanos s'appelait Lapu-Lapu, un homme de grande adresse. Magellan n'en est pas encore revenu, j'ai vu le lieu de sa mort. Rien n'a changé, sans doute, un gosse nu s'en va grappiller des fruits, la mer bat mollement les coraux, et à l'abri d'un auvent, un bas-relief peint rappelle l'aventure. 1521, Magellan, et au travers de lui, toute l'histoire de l'Europe à la conquête du monde. Toujours sur l'île de Mactan, en face de la ville de Cebu, mais à l'intérieur des terres, je me suis arrêté avec ma petite voiture de location dans une minuscule fabrique d'instruments de musique, guitare, banjo et instruments locaux. Une fabrique dont le nom rappelle celui du héros local, de celui qui tua Magellan, Lapu-Lapu. J'ai visité les lieux, observé le travail minutieux et patient des artisans. J'ai aussi fait mine d'empoigner une guitare. Et pour ne pas être en reste, 2 ou 3 jeunes, désœuvrés, qui traînaient là, se sont mis à leur tour aux instruments. C'est avec cette musique de hasard que je vous quitterai aujourd'hui. Demain, je vous parlerai de Samboanga, la perle du Mindanao, où je suis arrivé hier soir, mais dont je n'ai vu encore que le chatoiement tropical et la clarté lumineuse du ciel et de la mer. À demain. Thank you.